Il était un petit homme pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. La maison est en carton, pirouette, cacahuète. La maison est en carton, les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier.
Bonjour, bonjour, c'est Hélène Marker qui vous parle en direct de sa petite planète bleue. La dernière fois dans Ça coule de source, on a parlé d'OGM et de la graine comme prisonnière de tout un système de production. La vie au centre d'un système. On cherche à maîtriser la nature par tous les moyens. Mais comment faire pour nuire le moins possible à la nature ? Les rêveurs et les utopistes, ou les plus pessimistes ? Aujourd'hui, on vous propose de rentrer par une porte et de sortir par une autre, de se loger sous un toit, de réfléchir à construire durable, à se faire son petit nid dans la nature, tout en la détruisant le moins possible. Qu'est-ce que peut être un habitat écologique ? C'est ce que nous allons voir avec mes fidèles sourciers, Romain Deschambres, François Garnier et Sophie Berder. Salut la compagnie !
Salut Hélène !
Salut Hélène !
Alors Sophie a été chercher pas mal d'informations de tous les côtés. D'ailleurs, elle va nous arriver d'une minute à l'autre. Elle a téléphoné, elle a contacté des sociologues, des architectes, etc. Et donc, elle va pouvoir nous dire comment elle est incollable sur l'habitat écologique. Elle nous dira ça dans quelques instants dans le « C'est quoi ça ?» Toi, on est dans le feu d'action. Toi, Romain, tu as décidé de nous emmener dans ta valise pour quelle destination aujourd'hui ?
Alors, on part pour les États-Unis.
D'accord, pour les États-Unis avec un mot anglais que j'arriverai pas à prononcer.
Le new urbanisme.
Ah ok, le new urbanisme, ce sera tout à l'heure.
C'est pas compliqué, ça veut dire nouvel urbanisme.
C'est vrai, c'est pas très compliqué. Bon bah le nouvel urbanisme avec Romain tout à l'heure. Et toi François, tu vas nous parler du petit coin, un petit coin de paradis. On verra ça plus tard.
Ah oui, la cabane du pêcheur.
Michel Turvin est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Donc vous nous donnerez votre définition de l'habitat écologique et vous nous parlerez de votre expérience personnelle en tant qu'architecte en pays de Brocéliande, spécialisé dans l'habitat écologique. Bienvenue dans Ça coule de source. Allez, on y va. C'est par ici la sortie.
Ça coule de source.
Alors Sophie nous arrive, une vraie journaliste en herbe, enfin, elle court partout, elle téléphone partout. Alors Sophie, toi tu as interviewé donc des architectes, un sociologue, un constructeur. Est-ce que tout ce petit monde t'a permis d'y voir plus clair dans l'habitat écologique, Sophie ?
Oui, on peut dire que oui. Alors, merci beaucoup François, voici ma chronique qui arrive. Donc alors la question centrale de cette émission, c'est quoi l'habitat écologique ? Alors je dirais que c'est plein de choses. Et avant tout, beaucoup de réflexions, de matière grise, comme l'a dit Maria López-Diaz, architecte et chargée de mission développement durable à l'Agence nationale de l'habitat. Construire en tenant compte uniquement de la dimension écologique ne veut rien dire pour elle. Il faut aussi intégrer la dimension sociale. C'est aussi l'avis de Philippe Madec, architecte spécialisé en éco-construction à Rennes et à Paris. Parce que si un plus grand nombre de personnes accèdent à ce type d'habitat, on peut dire que la démarche est écologique. Et ce, même si les niveaux d'exigence sont moins stricts sur la maison elle-même. En effet, que penser d'une maison qui se veut écologique et qui est implantée au cœur d'un site fragile et isolée des infrastructures de vie courante et de votre lieu de travail ? Elle perd finalement sa valeur écologique de départ. Tous les efforts réalisés pour la conception de cette superbe maison sont presque anéantis. Stéphane Chevrier, sociologue de l'habitat, rejoint Maria López-Diaz lorsqu'il parle de construire un habitat ancré dans son territoire d'inscription. Ce serait là le travail de tout architecte, normalement. Maria López-Diaz nous parle aussi d'actifs et de passifs, c'est-à-dire d'abord penser un bâti avant de penser à l'équiper. Ce qui signifie concrètement qu'un logement équipé de panneaux solaires ne sera pas forcément plus écologique si votre isolation est mauvaise. Il semblerait que l'habitat écologique soit un tout cohérent. Maria López-Diaz parle d'ailleurs de système constructif. Pour Michel Turbin, qui est avec nous sur ce plateau, l'habitat écologique, c'est un habitat qui a le moindre impact sur la nature. Mais elle nous en parlera plus en détail au cours de l'émission. Pour moi, à partir du moment où ça concerne l'écologie, c'est un tout. une vue d'ensemble et qui appelle un autre rapport à la nature. C'est aussi ce que dit James Wines dans un livre qui s'intitule « Architecture écologique ». Voici ce qu'il nous dit. « Certaines innovations dans le domaine de l'écologie, matériaux recyclés, vitrages isolants, méthodes de construction moins coûteuses en énergie, etc., vont dans le bon sens. Cependant, la plupart, en mettant l'accent sur les moyens, tendent à faire oublier le but poursuivi. Ce but, cette mission, consiste en un engagement collectif des sociétés, où qu'elles soient, afin de lutter ensemble pour une cause commune et de renouer avec l'environnement naturel. Alors pourquoi construire écologique ? Pour diminuer, ce que l'on appelle notre empreinte écologique. Fatalement, nos activités humaines laissent une trace sur la nature, plus ou moins grande selon cette activité. La construction écologique pourrait donc se définir par sa finalité. Serait une construction écologique, la construction qui est la plus respectueuse de la nature, celle qui inverse le plus favorablement possible pour la nature le rapport occidental et dominateur qu'on entretient aujourd'hui avec elle, celle qui ne reposerait plus sur un bon vieux présupposé, celui qui nous dit qu'on doit contrôler la nature, la dominer, l'exploiter, en tirer profit.
Merci Sophie. Samedi dernier, nous nous sommes rendus à Bollon, près de Rennes, pour visiter une maison écologique. La visite était organisée par l'association Empreinte, qui promeut l'habitat passif à faible empreinte écologique. Elle propose donc à des particuliers de se rendre dans différentes maisons écologiques.
Brièvement, une petite liste des matériaux que vous avez utilisés pour la construction de cette maison. On voit du bois, on voit de la tomette.
C'est très simple, c'est de la terre et du bois, on va dire. Tous les dérivés du bois et du chanvre. Voilà. Alors ça, c'est une plaque de parement qui remplace le placo qui s'appelle du fermacel. Oui, c'est pareil, c'est du gypse et de la cellulose, mais dont la densité est beaucoup plus grande, parce que par exemple, là, quand vous enfoncez une cheville dans du fermacel, vous avez une résistance de, je crois, 50 kg à l'arrachage.
Ah ouais, oui.
Et vous avez trouvé des matériaux pour teinter le bois?
Oui, écolo, oui, bien sûr. Tout ça, maintenant, on trouve tout, vraiment. Je pense que, vous voyez, encore une fois, c'est quelqu'un qui veut chercher, il le trouve. Hein.
Le du bois, vous savez d'où il vient, le bois ?
Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que c'était scandinave.
Ça, c'est écologique.
Effectivement, il y a une énergie de transport. Après, il y a... c'est des choix, quoi.
Prendre du bois local, ce serait...
Oula, voilà. Donc, je me suis débrouillé pour que tous mes réseaux sortent devant. Parce que je me suis dit, voilà, il n'y aura aucun tuyau qui ne traverse. Non, ils sortent directement, toutes les pièces. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Quand j'ai fait mes pièces, je me dis, les salles de bain, du coup, la cuisine, il faut que ce soit en bout. Voilà. Comme je vous disais, je n'avais pas envie qu'il y ait de tuyaux qui traversent toute la maison. Parce que je trouve ça, je me dis, si on a une fuite, on est mort. Donc, j'ai fait des gaines techniques partout au nord de la maison, sur les entrées, vers la fosse septique, vers la fosse toute. Pour avoir habité des maisons remplies de cochonneries, avec des peintures où les enfants avaient des allergies en permanence, nous-mêmes, on se levait le matin, on se mouchait, quoi. Ici, du jour au lendemain, plus personne ne se mouche, quoi, comme par hasard. C'est vrai qu'on a les moyens de faire cette maison, donc allons jusqu'au bout. Il y aura zéro cochonnerie dans la maison. Et il y en a, je crois, zéro. Et je ne voulais pas tuer en PVC. Bon, ils m'en ont mis quand même pour les écoulements. Donc il y en a, voilà. C'est la seule chose qui n'est pas écologique dans la maison.
Vous les auriez voulu en quoi ?
En PEHD. C'est du polyéthylène haute densité. C'est-à-dire, c'est la même fonction, si vous voulez, sauf qu'il n'y a pas de chlore dans. C'est le chlore qui est dans le PVC qui est très mauvais. Oui.
Est-ce que vous avez eu un souci d'économie d'énergie ou d'être autonome en énergie ? Parce que ça, c'est autonome en énergie, c'est un peu plus politique.
Non, c'était autonome en énergie. C'est pour ça que l'eau, ça, je voulais pas être sur le réseau. L'électricité, malheureusement, je peux pas mettre d'éolienne à cause de la forêt, parce que ça fait un effet. J'ai appris ça après, un effet de masque. Les arbres font un effet de masque devant les éoliennes. Photovoltaïque, d'après ce que j'avais calculer un peu ici, le rapport n'est pas très économique en investissement, parce qu'il faut stocker l'énergie aussi. Et pour l'instant, nous, on n'a pas assez de soleil en Bretagne pour avoir du photovoltaïque rentable, quoi. Ici, il aurait fallu en gros 20 mètres carrés de capteurs, ce qui faisait énorme. Ça fait pratiquement... Moi, j'ai 6 mètres carrés en panneau solaire, donc vous voyez, ça faisait pratiquement tout le toit là, au sud.
Et de l'emplacement.
Ah, l'emplacement. Il n'y en a pas beaucoup au nord, en fait. Il y en a plus au sud, en fait. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les calculs énergétiques. Ça, c'est du... Enfin, excusez-moi, c'est un peu du pipeau. J'avais justement un type là, qui m'avait aidé au début. Il m'avait dit qu'il voulait mettre aucune ouverture au nord. Ce qu'il disait, parce qu'il avait lu bêtement que les fenêtres au nord, ça fait un pont thermique, ça fait une dépense d'énergie. Donc, au-delà d'un certain ratio, effectivement, votre façade n'est plus isolante.
Sur le toit, tu vois ce qu'il y a sur le toit là ?
Des briques ?
Non.
C'est quoi ?
C'est des panneaux solaires.
Des panneaux solaires.
Est-ce que tu sais ce que c'est ?
Oui, c'est des panneaux solaires.
Et ça sert à quoi les panneaux solaires ?
À tenir la maison.
Des panneaux solaires qui servent à tenir la maison. On voit là un exemple d'habitat écologique parmi d'autres. Les procédés sont multiples. On peut choisir de rénover une maison ou d'en construire une toute neuve. On peut aussi choisir les matériaux, maison en paille, maison en bois, toit de chaume. Les alternatives écologiques à la maison traditionnelle ne manquent pas d'inventivité et d'originalité. Michel Turbin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte en pays de Brocéliande, spécialisé dans l'habitat écologique.
Oui, c'est cela.
Donc, dès le début de vos études d'architecture, en fait, vous avez choisi de vous spécialiser en architecture bioclimatique. Pour vous, l'habitat doit être sain pour tous les acteurs, des fournisseurs aux habitants. Vous réalisez surtout des habitations pour les particuliers, ainsi que des rénovations. Alors, quand vous êtes arrivé, c'est vrai que vous nous avez dit tout à l'heure que ça a été difficile pour vous d'affirmer le fait que vous étiez architecte... Je ne sais pas comment on dit, bioclimatique, écologique.
Oui, le terme c'est bioclimatique. Au tout début on disait architecte solaire, puis on a très vite utilisé le terme bioclimatique parce qu'on construit en fonction du climat. Donc c'est différent, l'architecture va être différente selon la latitude. Et bon, aujourd'hui on a rajouté écologique et sain, parce qu'au départ, dans ce qu'on appelait l'architecture solaire ou les débuts de l'architecture bioclimatique, on avait le souci, on savait qu'on allait manquer de pétrole, mais on n'avait pas le même souci de santé qu'on a aujourd'hui face à toutes les pollutions. On ne les connaissait pas. Le scandale de l'amiante est arrivé après, même s'il était connu bien avant. Et puis tous les autres polluants ne sont connus que assez récemment.
Vous avez dit architecture bioclimatique, cela signifie que c'est pas la même chose en fonction des différentes latitudes. Ça veut dire que les maisons traditionnelles, par exemple, ne sont pas forcément adaptées pour tous les milieux ?
Les maisons traditionnelles, si, en général, sont adaptées à leur milieu. Vous avez des maisons traditionnelles différentes du nord au sud de la France, de l'est à l'ouest. Dans chaque région, les maisons sont très adaptées normalement au climat local. Ouais. Et donc l'architecture bioclimatique aujourd'hui va s'inspirer à la fois de ces maisons traditionnelles, mais également on a une vue générale. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de la moindre empreinte. C'est vrai qu'on a une vue, on va penser à la fois à tout le circuit des matériaux, ça va être le point de vue écologique, mais on a aussi le souci de consommer le moins possible d'énergie. C'est là qu'on essaye de transformer la maison en capteur solaire l'hiver, en climatiseur l'été, et c'est là qu'on reprend quelquefois certaines techniques anciennes, certains matériaux locaux. Mais tout ça, ce sont des choses qui ont été réfléchies assez récemment, il y a 20-30 ans à peu près, aux États-Unis. Ça a commencé aux États-Unis et les techniques sont arrivées en France. On a eu aussi de grands chercheurs hein, comme Félix Trombe qui a donc inventé le mur Trombe, qu'on utilise peut-être moins aujourd'hui. Mais
c'est quoi exactement ?
Alors, c'était un mur capteur solaire qui était derrière un vitrage et qui entraînait un espèce de mouvement d'air. Le mur était souvent réalisé en béton, peint en noir, il chauffait derrière le vitrage et l'air chaud montait, passait par des ouvertures en haut de ce mur avec des trappes qu'on ouvrait quand on voulait que l'air chaud rentre dans la maison. À l'inverse, on les fermait dans la journée, on les ouvrait la nuit. Enfin bon, bref, tout un système qu'on utilise pratiquement plus maintenant. On va utiliser essentiellement le rayonnement du mur capteur. Donc on met des murs massifs qu'à l'intérieur de la maison, des murs qui font faire des volants d'inertie. Et on essaye d'isoler au maximum toutes les parois extérieures. Donc toutes ces techniques sont extrêmement simples, mais elles ont quand même évolué au cours de ces 25 dernières années.
François ? Qu'est-ce que vous entendez par un volant d'inertie ?
Alors, c'est une image, parce que c'est vrai quand on parle de masse thermique dans un bâtiment, on se demande ce que c'est. En fait, ce sont des murs lourds, qui sont donc très denses et qui accumulent la chaleur du soleil, le rayonnement solaire, de façon à le diffuser tout doucement au long de la journée, enfin dans les heures de la nuit plutôt, dans l'intérieur de la maison. En fait, ce volant d'inertie va, cette masse thermique va réguler la température intérieure de l'habitat, de façon à créer un climat qui change peu, parce que ce qui consomme de l'énergie, ça va être la variation, quand on va demander une grande variation de température dans l'habitat. Par exemple, quand la température de confort, on estime qu'elle est entre 18 et 25 degrés à peu près. Mmh. Si la maison se refroidit brutalement, ça va demander énormément d'énergie de réchauffer tout l'ensemble, tout le volume intérieur. Donc on essaye de faire très peu varier ce climat intérieur. On essaye de le garder entre 17 et 25 au long de l'année. Donc une très forte isolation à l'extérieur, sur toutes les parois extérieures, et un grand volant d'inertie, une grande masse thermique à l'intérieur, sont deux des principes, on va dire, principaux de la maison bioclimatique.
Romain ?
Alors, tous ces
Faut pas oublier non plus toutes les baies vitrées bien orientées, hein, de façon à faire rentrer le soleil dans la maison.
Donc orienté côté sud.
Alors voilà, justement,
ça c'est plus connu, disons.
Justement, oui, tous ces principes de baies vitrées, ouais, de murs, au final, il s'agit de bien placer les choses. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça la maison passive ?
Alors,
c'est ça.
La maison passive est une maison qui ne consomme pas d'énergie ou très très peu. C'est à partir de en dessous de 25 kilowatts, je ne vais pas me tromper dans les unités, 25 kilowatts par mètre carré et par heure. Alors qu'aujourd'hui, un habitat ordinaire français moyen consomme à peu près 450 kilowatts par mètre carré par heure. Par mètre carré ou mètre cube, je ne sais plus trop. Enfin bref, la différence est énorme. Donc l'habitat passif, c'est celui qui ne va pas consommer. Et pour que cet habitat consomme peu, on essaye de lui apporter de l'énergie gratuite, celle du soleil, quand il y en a. C'est vrai qu'en Bretagne, il n'y en a pas beaucoup. On essaye d'en consommer également très peu. Donc
Sophie,
effectivement, la forme de l'habitat, les ouvertures, l'orientation des ouvertures est primordiale. Donc l'architecture bioclimatique, c'est avant tout une conception de forme.
Sophie ?
Moi, j'ai une question moins technique, plus personnelle. Pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser dans le bioclimatique, l'éco-construction ?
Alors pourquoi ? L'autre jour, je crois que c'est une de vous deux qui me demandait pourquoi j'étais devenue écolo.
C'est moi.
Tout simplement parce que je lui ai répondu que j'ai vécu le drame du Torrey Canyon, une marée noire épouvantable quand j'avais 7 ans. Bon, puis toutes les autres qui ont suivi, puisque j'habitais sur la presqu'île sauvage. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le sillon de Talbert, Pleubian, enfin, c'est très sauvage. On a d'un côté Plougrescant et de l'autre côté l'archipel de Bréa, donc c'est entre les deux.
Ah, oui.
C'est moins connu, c'est magnifique et c'est dramatique quand c'est souillé, quoi. Donc c'est vrai que ça marque. Et j'ai eu la chance incroyable de rencontrer, mais dès les premières heures que j'ai passées à l'école spéciale d'architecture à Paris, de rencontrer un professeur qui était à l'époque appelé professeur d'architecture solaire et que j'ai suivi pendant toute ma scolarité par la suite. Il s'appelle Marc Vaille, qui est un des premiers à avoir fait une maison solaire en France.
Mais c'est très nouveau ça quand même, on peut dire que c'est assez récent l'architecture bioclimatique. Comment c'est vu au sein des architectes actuellement ?
Alors, ça n'est pas si nouveau. Hein. J'ai fait mes études entre 77 et 83, donc c'était déjà bien connu à l'époque. J'ai assisté à un séminaire interchercheur en 1979 qui avait lieu à Collioure, où justement on a rencontré les gens qui avaient travaillé sur le mur Trombe. Je suis pas sûre d'avoir vu Monsieur Trombe en personne, mais enfin bon, bref, des premiers chercheurs français sur le solaire, l'éolien. et surtout le solaire d'ailleurs. Mais je crois qu'on a vraiment pris conscience de l'intérêt de l'architecture bioclimatique depuis la canicule et le drame de la canicule de 2003. Et c'est ce qui est terrible, c'est que finalement, on attend toujours la catastrophe pour agir. Alors que ça fait quand même bien longtemps, depuis les deux crises pétrolières des années 70, qu'on sait qu'on doit faire attention aux dépenses d'énergie.
Parce que la catastrophe de 2003 a touché aussi des personnes humaines. Et les êtres humains sont peut-être plus sensibles à l'humain.
Oui. Oui. Oui, on ne pense pas à notre environnement alors que nous vivons dedans.
On va revenir avec Michel Turbin après une musique et la deuxième partie du reportage que je vous présenterai tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va écouter Ayazine de Chet Nouneta sur l'album Ailleurs. Avant de revenir avec Michel Turbin, architecte en pays de Brocéliande spécialisé dans l'habitat écologique, nous vous proposons de continuer la visite de notre maison écologique.
Non, en plus, c'est rigolo, oui, parce qu'à un moment donné, on disait qu'il faut faire de la maison en biobrique. Après, on nous dit oui, mais quand on fait de la biobrique, ça consomme énormément d'énergie pour sécher la brique et la cuire.
Oui.
Alors, où va-t-on là?
On pose la question à...
Qu'est-ce qu'on choisit?
Mais après, c'est sûr que le bilan écologique, après, on peut se poser la question. Mais il y a le bilan écologique et puis le bilan sanitaire, puisque les bois, quand ils sont traités, après ils relâchent tout au long de leur durée de vie certaines substances qui sont pas forcément bonnes pour la santé. Donc
c'est vrai que dans le temps ici, on utilisait des bois comme le châtaignier parce que les vers ne vont pas dans le châtaignier. Donc, mais bon, il n'y a plus beaucoup de châtaigniers non plus.
Et on pense qu'on va faire une action écologique et au final
le bois ne va pas être traité. Mais pour qu'il ne soit pas traité, il faut prendre un bois de qualité. Et le bois de qualité, comme du Douglas, on en trouve en Bretagne. Donc du coup, on résout le problème du transport.
Non, non, mais c'est...
C'est pas très logique.
Oui, mais quand je parle qui respecte, enfin qui minimise l'énergie, c'est l'énergie à vivre, et puis c'est l'énergie que l'on utilise pour les transporter,
les fabriquer, les recycler, voilà.
Voilà, d'accord. C'est ça.
Okay.
Donc c'est ces deux aspects-là, en fin de compte.
Le bois venait de Scandinavie, donc qu'est-ce que ça vous inspire?
Je pense qu'il va falloir qu'on plante des forêts chez nous, peut-être, de bois, qui pourra servir plus tard.
Les consommateurs raisonnent par les équipements. C'est-à-dire qu'ils veulent une maison avec une géothermie, avec des panneaux solaires, etc. En la matière, c'est pas forcément par cette entrée qu'il faut pouvoir réfléchir sur la maison, mais davantage réfléchir à partir de l'enveloppe, c'est-à-dire les murs, l'isolation des murs, etc.
Par exemple, vis-à-vis des énergies ou de confort, une fois que cette enveloppe a été calculée avec des méthodes précises, avec des calculs pour savoir vraiment comment elle doit être constituée, on fait les vérifications et tout ce qui manque, c'est là qu'on met en place des outils actifs, comme peut être la géothermie ou une pompe à chaleur ou un vide canadien ou il y a infiniment une grande quantité d'outils. Il y a cas par cas un projet qui doit être fait en fonction, par exemple, du mode d'occupation. Et ça, ce sont des calculs, ce ne sont pas des matériaux. Et c'est ça la façon de construire. D'accord. Il n'y a pas de recette de matériaux, aucune.
C'est ça le truc, il faut se poser 1000 questions, bien réfléchir, bien penser son projet.
J'ai lu énormément de choses, et puis après je me suis dit, bon ben, allons-y quoi, tant pis, je vais sûrement faire beaucoup d'erreurs, mais il faut y aller. Il y a une volonté de faire les choses. Alors après, est-ce qu'on suit la démarche jusqu'au bout? Est-ce qu'on la suit pas jusqu'au bout? Est-ce qu'on fait une partie et pas l'autre? Voilà. Tout dépend, encore une fois, de chacun. Je vous dis, en s'informant un peu, en allant voir les artisans, en proposant de travailler avec eux. Enfin, franchement, on peut. Ouais, il y a des solutions. Je pense qu'encore une fois, elles existent, quoi.
Pourquoi Bollon? Et est-ce que vous avez pensé au niveau écologie, ce qui va être les déplacements, l'accessibilité à tout?
Bollon, c'est quoi, le hasard complet, quoi. Bon, ça, là, c'est au feeling, c'est la forêt qui nous a plu, en fait. Voilà. On va à pied, hein. La pharmacie est à côté, la boulangerie là, l'école est là. Enfin, je veux dire, très bien être dans un village, mais pas être les uns sur les autres, mais quand même faire partie du village. Et moi, je voulais aussi favoriser les entrepreneurs du coin. Donc, le couvreur, c'est un type du village. Enfin, il y a plein de gens qui sont du village, quoi. Voilà. Tout dépend ce que vous voulez dans la vie. Si vous avez envie de faire les choses, bah vous les faites, quoi. J'aimerais bien faire une maison en bois. Voilà, c'était parti de là. J'étais fasciné par les maisons en bois nord-américaines. Là, je trouvais ça magnifique. Je m'intéresse pas mal aux problèmes environnementaux. Et puis, c'est quelque chose qui me concernait depuis longtemps. Bah, j'ai allié un peu les deux. Voilà, et c'est parti comme ça. Co-construction, ça faisait partie pour moi de la même démarche que l'agriculture bio, une électricité propre si c'est possible. Je voulais construire une maison sans cochonnerie, qui ne dépense pas trop d'énergie, avoir un assainissement propre. Ça faisait partie de ce que moi je pensais qu'on pouvait faire pour agir individuellement sur un problème qui était posé collectivement à la planète.
Alors là, on a pu entendre différentes personnes parler de l'habitat écologique et parler de plusieurs exemples. On a pu entendre Maria Lopez-Diaz, Philippe Madec, qui sont tous deux architectes. Et il y avait Stéphane Chevrier, qui est sociologue. Donc eux, ont pu nous dire un petit peu comment on peut choisir les matériaux, comment ça se passe cette réflexion. Moi, j'aimerais vous demander, donc Michel Turbin, vous êtes architecte en Pays de Brocéliande, je le rappelle, et donc spécialisé dans l'habitat écologique. Est-ce que c'est vraiment difficile de construire écologique?
Absolument pas. Absolument pas, c'est une démarche globale. D'abord, le travail de l'architecte est primordial, donc c'est un travail de conception. Et l'écologie doit de plus en plus aujourd'hui faire partie de notre vie, de notre façon de penser. Donc non, ce n'est pas difficile. Il y a des choses à connaître, des choses à réfléchir, mais si on part du principe qu'il faut effectivement avoir une empreinte moins... Je ne vais pas réussir à le répéter, mais diminuer notre empreinte sur l'environnement, les choses viennent naturellement.
Mais pourtant, là, nous, on a pu entendre que donc, la personne qu'on a été voir ne veut pas qu'on donne son nom. Et cette personne-là nous a vraiment dit qu'au niveau des démarches, ça avait été compliqué et qu'il n'avait même pas réussi à trouver d'architecte qui était suffisamment performant dans l'habitat écologique et qu'il avait été obligé lui-même de faire les plans de sa maison et de penser sa maison. Alors, est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que maintenant il y a des personnes compétentes qui peuvent permettre de proposer un habitat écologique? Vous?
Je suis pas la seule, hein. Nous commençons à être assez nombreux. Non, je pense qu'aujourd'hui effectivement il s'est peut-être mal renseigné, ce monsieur, ou il a peut-être cherché il y a quelques années. On était peut-être moins nombreux, moins connus. Mais il y a 2-3 ans, c'est vrai qu'on va peut-être nous trouver plus facilement sur Internet qu'en téléphonant à l'Ordre des architectes.
À l'Ordre, ils ne donnent pas de nom.
Mais non, c'est normal, parce que normal, on est censé pouvoir répondre à toutes sortes de projets quand on est architecte.
Oui, mais
notre sensibilité personnelle nous amène à développer certains aspects plus que d'autres.
Et vous êtes prête à refuser certains projets s'ils ne s'inscrivent pas dans une démarche?
Oui, je l'ai fait, oui.
Oui. D'accord.
Comment on fait pour choisir les personnes qui vont nous donner les produits, par exemple pour ce qui est des murs, etc. À qui on fait appel? Est-ce que vous privilégiez par exemple le local pour que ce soit écologique?
Oui, évidemment, dans une démarche écologique, on va penser à tout le circuit des matériaux, hein, de l'extraction des matières premières. Jusqu'au recyclage final après destruction de la maison. Donc tous les circuits, on essaie d'y penser à tous les niveaux. On va privilégier effectivement tous les acteurs locaux, les fournisseurs locaux, les producteurs locaux. Et après on fait appel aussi à des artisans qualifiés si possible. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, on manque de beaucoup de personnel dans le bâtiment et en particulier de personnel qualifié. Oui, mais il y en a effectivement, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui un des problèmes du bâtiment, en général.
C'est une filière qui est bien organisée, la filière de l'éco-construction?
Ça commence, oui. Disons que c'est notre travail de prescripteur aussi, d'encourager les fournisseurs de matériaux sains et bon, l'utilisation du bois, par exemple, on peut l'encourager tout simplement en la prescrivant, quoi.
Le monsieur là, qui voulait rester anonyme disait aussi qu'il avait eu du mal à se fournir en panneaux solaires. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forte demande et une production
Disons
ne suit
si
pas.
On veut du bon matériel, ça coûte cher, ça peut être un frein, mais non, les panneaux solaires existent depuis maintenant tellement d'années qu'on en trouve de toutes les qualités à tous les prix.
Mais apparemment, il y avait des mois d'attente, quoi. Il y avait deux mois de délai.
Peut-être, oui. Dans certains cas, on peut avoir des matériaux. Si on désire une marque, un produit bien particulier, il peut y
d'accord,
avoir des délais.
C'était plutôt ça, d'accord.
Pour tous les matériaux du bâtiment.
Vous dites que les panneaux solaires, ça coûte cher, ou ça peut coûter cher. Est-ce que la maison écologique, c'est destiné à un public riche?
Absolument pas. Absolument pas. Non, la maison écologique, on peut la commencer à un prix très réduit. Par contre, c'est vrai, quand on vient faire appel à un architecte, on vient demander du sur-mesure. Donc, l'architecte a un coût. Les honoraires de l'architecte ne sont pas intégrés dans le coût de la construction comme chez un constructeur, hein. Donc on produit pas des produits sur catalogue, c'est toujours du sur mesure. Donc effectivement, ça, il y a le surcoût de l'architecte. Ensuite, on peut toujours trouver des réponses économiques à tous les projets.
Romain, une dernière question.
J'aimerais savoir, vous avez parlé des matériaux. Il y a des matériaux que vous allez utiliser qui sont plus écologiques, enfin que vous trouvez plus écologiques, des techniques. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre démarche de celle de l'emplacement de la maison, de réfléchir dans l'ensemble aussi, comment finalement je vais me rendre à mon boulot, est-ce qu'il n'y a pas aussi toute cette démarche où...
Bien entendu, c'est toujours une démarche... Quand on pense écologie, on pense toujours à une démarche globale. Donc effectivement, on a aussi un rôle pédagogique auprès du maître d'ouvrage, qu'il soit particulier ou autre public. On essaye d'aborder tous les côtés de l'habitat. Donc comment ça va être vécu effectivement? On va pas aller construire un bâtiment loin de tous les services, à moins de le rendre autonome. Et que ça soit justifié.
Michel Turbin, malheureusement, on ne va pas pouvoir continuer avec vous cet entretien. On aurait eu plein d'autres questions à vous poser. Mais ce qu'on peut proposer à nos auditeurs, c'est déjà d'aller voir votre site internet.
Oui, il va falloir que je le remette à jour, mais effectivement, oui.
Mais il y a déjà beaucoup d'informations dessus, à propos, vous avez posté plusieurs articles, notamment aussi à propos de la ville
chinoise. Ah oui, j'ai parlé d'une ville, Dongtan, dans une chronique.
Et vous en parlez aussi. Et donc, je rappelle l'adresse de votre site, c'est http://archiverte.canalblog.com, si je ne me trompe pas.
Oui, ça doit être ça.
Mais de toute façon, vous tapez architecture verte et vous tomberez directement donc, dans un moteur de recherche sur le site de Michel Turbin. Merci beaucoup.
Ça coule de source sur Radio Campus Rennes 88.4.
Alors, c'était Beau Dommage de Vincent Bourgeix, with Carl Januska sur l'album Un ange qui ricane, juste avant le jingle Ça coule de source. On va continuer avec la troisième partie de notre reportage. Donc, lors de cette visite à Bollon, nous avons rencontré plusieurs personnes qui ont des projets pour leur maison et d'autres un peu plus curieux qui sont venus voir de quoi il s'agissait. On vous propose d'écouter un petit peu leur avis à propos de cette maison écologique.
Lié en papier et une maison en carton, et c'est pas très pratique.
C'est des alternatives auxquelles j'aurais bien pensé.
Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison.
Alors bonjour, donc là on est à Bollon, on est en train de visiter une maison écologique. Et donc vous, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes là aujourd'hui.
On fait régulièrement des visites en vue de mener notre propre projet de maison écologique. Donc on visite différents styles de maisons qui peuvent être faits pour glaner des informations et puis pour attaquer ensuite un projet perso.
La maison est en carton, pirouette, cacahuète. La maison est en carton, les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier.
Vous retrouvez dans cette maison ou comment vous imagineriez-vous votre maison écologique ?
Oh ben, moi j'aime beaucoup le bois aussi. Bon, ça pourrait ressembler à ça. C'est très intelligent, c'est très pertinent dans chaque détail, quoi.
En matière esthétique d'ailleurs, je trouve que bien souvent ce sont des maisons qui sont plus esthétiques, qui ont un certain cachet plus intéressant que les maisons traditionnelles que l'on peut voir.
Tu vas voir, ta maison écologique, elle tiendra jamais le coup. C'est prouvé scientifiquement. Par les trois petits cochons, la preuve.
c'est déjà une maison, mais moi, quand je vois cette maison-là, ça me fait penser que c'est des vieux matériaux qui reviennent à la mode, comme les terres cuites, et aussi des vieilles maisons en terre pure. Bon, dans, il y a quelques années, en Bretagne, on avait des régions où vraiment les maisons étaient faites toutes en terre du pays. Et d'ailleurs, quand on voit dans des pays genre Maroc et tout ça, on voit des gens qui construisent leurs maisons en terre, et eux, ils prennent la terre sur place, ils la travaillent sur place, donc il n'y a pas de transport... Et donc aussi dans la maison écologique, on doit aussi tenir compte d'avoir les matériaux le plus proche de chez nous, quoi, si possible.
Il y a tout un tas de choses possibles. Là, on regarde une maison en bois. Il y a, ce matin, on est allé voir une rénovation, donc une maison en pierre, toit de chaume et chanvre. On regarde beaucoup aussi les maisons construites en ballot de paille, ossature bois, etc. Donc il y a énormément, énormément à glaner.
C'est sa maison qui est en carton.
Il y a... D'autres points qui, moi, me semblent intéressants, c'est tout ce qu'on peut, au final, partager, quoi. Les parties collectives qu'il peut y avoir, par exemple le terrain. On apprécie d'avoir un grand terrain, mais en même temps, il faut être réaliste. Si on divise la surface disponible par rapport au nombre de gens qui voudraient en disposer, la taille qu'on va obtenir pour chacun, elle n'est pas énorme. Donc il faut aussi prendre en compte ces données sociales-là, quoi. Puis on peut aussi même aller un peu plus loin, partager des pièces type qui soient pas des pièces de vie, type une chambre d'invité, je sais pas, une buanderie, un garage, un atelier.
C'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de maisons qui se font de manière écologique en terre. Et c'est surtout de l'autoconstruction. Hein. C'est des gens, ils se regroupent, ils montent et puis ils montent ça eux-mêmes, quoi.
L'intérêt, c'est de faire une construction qui soit intelligente, qui prenne en compte tous les facteurs extérieurs, les facteurs de construction, même d'élaboration des matériaux, etc. Donc c'est aussi passionnant. Quand on construit ce genre de maison, on s'investit. Et on s'investit sur des années et des années pour son confort de vie. Donc ouais, je pense que forcément, ça correspond à une philosophie. Là.
Je pense que les professionnels feront leur chemin. Et offriront bientôt d'autres prestations aux particuliers. Mais pour l'instant, je pense qu'ils ne sont pas encore là-dedans. Mais ça va vite.
Une maison écologique, ce n'est pas une maison en carton avec des escaliers en papier. Ce n'est pas non plus un lieu impersonnel où l'on rentre comme si de rien n'était. C'est bien plus que ça. Et il existe mille et une façons d'imaginer une maison écologique. Ce qui est sûr, c'est que construire écologique, ça demande de la réflexion. Il s'agit de réfléchir à ce qu'on aimerait vraiment. Quel habitat répondra le plus à nos besoins et à nos habitudes? Et puis, il faut lier tout ça avec des matériaux sains. Il faut penser au lieu aussi. En somme, c'est tout un projet qu'on mûrit, auquel on réfléchit et qui, une fois fini, reflète bien ce que nous sommes. Toi, Romain, tu as décidé de nous emmener aux States aujourd'hui et d'aborder un sujet qui t'est cher, l'étalement urbain.
Très bien, oui, tout à fait. Et oui, je me suis posé la question de savoir si vraiment la maison écologique, tout d'abord, qu'elle soit allemande, belge ou danoise, était vraiment différente de la nôtre. Bien, en fait, la vérité, c'est qu'elles sont à peu près toutes différentes. Il n'existe pas vraiment de modèle écologique de la maison en 10 leçons, nous proposant le matériau écologique par excellence, ni même cette technique de mise en place particulière. La véritable question à se poser est celle de son emplacement. À quoi bon construire une maison propre, économe en énergie, si elle nous rend dépendants de notre voiture, qu'elle engendre la mise en place de kilomètres de routes coûteuses, qu'elle empêche la mise en place d'un réseau de transport en commun propre? Je vous parle d'une notion, certes économique, mais grandement écologique, l'étalement urbain. L'étalement urbain, alors grande question urbanistique contemporaine qui a le désavantage d'être tellement compliquée que tout le monde s'en désintéresse. Et bien pourtant voilà que débarque dans les années 80... Le New Urbanism. Alors oui, je le prononce à l'anglaise car ce phénomène vient tout droit des États-Unis, comme tu l'as dit. Je vous épargne la description du contexte américain où la mode est à la maison placée en milieu d'une parcelle de 800 m² sans aucun contact avec la rue, à milieu de tous les équipements nécessaires. Et oui, le New Urbanism se présente comme un mouvement architectural visant à réduire les phénomènes de l'étalement urbain. Et par quel moyen? Eh bien en proposant la réalisation de lotissements mêlant maisons individuelles, maisons de ville et logements collectifs à trois niveaux. Le tout est en réalité de proposer une zone résidentielle à densité plus élevée. L'intérêt du New Urbanism est d'introduire dans le développement suburbain une note urbaine plutôt que d'importer en ville ce qui se fait en banlieue, dans l'idée de respect de l'environnement, un peu à la manière des cités-jardins. Alors oui, je vous expliquerai bien ce que c'est que les cités-jardins, mais bon, ce serait compliqué. Autrement dit, c'est le retour aux limites entre la campagne et la ville. Cependant, la réflexion de New Urbanism oublie de nombreux points importants concernant la remise en cause de la voiture. La réponse de New Urbanism est donc tout simplement une amorce à la question de l'étalement urbain. Alors peut-être, avant de penser sa maison écologique, ne faudrait-il pas avoir une réflexion d'ensemble que seuls nos politiques et urbanistes sont capables de nous fournir ?
Et comme je le disais dans le sommaire, il serait peut-être temps d'aller au petit coin. Un petit coin de paradis, un petit coin de parapluie avec François.
Ma cabane au fond du jardin, c'est un charmant petit trou tout entouré de cailloux. Ma cabane au fond du jardin, moi j'y vais quand j'ai besoin. Non bon, plus sérieusement, je peux vous parler d'intimité aujourd'hui.
Vas-y François.
Ouais, allez, on est entre nous là.
Vous savez, ces moments où on déboutonne son pantalon et où on le laisse tomber sur les chevilles. Un instant à peine avant que le caleçon ou la petite culotte ne suive. Bon, après ça, on s'assied sur la lunette et on soulage la nature. Bon, jusque là, sauf cas de force majeure, on a pris le temps. Mais après, hein? Après, que ça disparaisse, bon Dieu, que ça disparaisse! On veut plus le voir, ce machin qui flotte ou ce truc qui stagne au fond de la cuvette.
Mais c'est interdit au moins de 18.
Ah, on peut pas être géniteur d'un truc pareil, non? Alors hop, on tire vite fait la chasse et adieu va! Je te reconnais pas, immonde fils de mon splendide corps, et de toute façon, je te déshérite. Voilà, ça, on n'en parle plus, dans les tuyaux, ça a disparu. On n'en parle plus?
Mais qu'est-ce qu'ils font pousser à Bolon?
On n'en parle plus, disais-je. Un jour, au 22e siècle, dans les manuels d'histoire, on en reparlera peut-être. Sous une autre forme, genre commentaire de statistiques aberrantes. À l'aube du 3e millénaire, la partie se disant civilisée de l'humanité utilisait de l'eau potable pour recueillir ses excréments. Un 1/5 de l'eau alors utilisée quotidiennement était destinée à cet emploi. On imagine aisément les « oh » et les « ah » des étudiants outrés qui entendront ça. Comment est-ce qu'ils pouvaient faire ça? Les étudiants seront vraiment éberlués. Dire que nous, il faut qu'on fasse gaffe au moindre litre. Le vieux professeur, amer, répondra certainement « eh oui, c'était une époque où le luxe et le profit individuel passaient encore avant, bien avant le profit collectif planétaire. » Petite précision, en ces hypothétiques temps futurs, les réseaux de toilettes sèches sont généralisés et personne, évidemment, n'aurait idée de souiller de l'eau potable, alors même que les déjections humaines sont si bénéfiques au jardin ou à la ferme et que l'eau est un bien si précieux. Même dans les villes, les toilettes sèches sont généralisées et leur contenu est collecté et composté dans les fermes environnantes qui y trouvent un engrais naturellement très efficace et bon marché. Hypothétique tout ça ? Ouais, je vois vos regards dubitatifs. Hypothétique, non, ça se fait déjà dans certaines villes. Et de grande taille même, comme Brest par exemple, où un réseau de toilettes sèches est déjà mis en place. Mais les toilettes sèches, c'est quoi au juste?
Et oui, c'est quoi?
C'est tout simplement la meilleure manière de doubler le plaisir que l'on ressent en faisant ses besoins. Non, parce que, entre nous, hein, c'est souvent un plaisir de soulager la nature. Et ben avec des toilettes sèches, c'est encore mieux. À chaque besoin qu'on fait dans son toilette tout confort, on se sent, là je vous le dis tout rond, avant-gardiste. Ah, je vous assure, et quelle fierté. Non, parce que là, ça, c'est plus seulement une affaire vite fait, bien fait, bâclée, évacuée. Ça devient une véritable offrande à la nature. Autant d'eau gaspillée en moins, autant de compost fertile en plus. En clair, les toilettes sèches... Non, rigole pas Sophie, les toilettes sèches, non. C'est l'avenir.
Merci François. Et d'ailleurs, à propos de toilettes sèches...
On y repensera.
On est parti avec l'association Empreinte pour visiter ces habitats écologiques. Et sur le site de l'association Empreinte, ce même site, on peut justement louer des toilettes sèches qui peuvent être mises à disposition de différents festivals. Et c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de festivals qui ont adopté les toilettes sèches, donc... comme précurseur aussi. Alors, pour prolonger la réflexion, on a encore plein de sources qui sont multiples. Et moi, je me tourne vers toi, Sophie, parce que toi, t'en as plein, parce que tu t'es vu avec plein de bouquins les derniers jours, t'as bossé à fond le sujet, donc tu vas pouvoir nous donner quelques livres à potasser.
Alors, il y en a un que j'ai adoré. C'est un livre sur Hundertwasser, qui est un peintre et qui est aussi un médecin de l'architecture.
D'ailleurs, on a mis une photo d'un immeuble de Hundertwasser sur notre site internet.
C'est sa maison à Vienne.
C'est sa maison à Vienne, exact.
Alors, ce livre s'intitule « Pour une architecture plus proche de la nature et de l'homme ». Sinon, il y en a un deuxième qui s'appelle « L'architecture verte » de James Wines. Et beaucoup de sites internet. Alors, il y en a un que j'aime bien, mais il est en anglais. Il s'appelle Tree Hugger. Alors ça s'écrit T-R-2-E-H-U-2-G-E-R.
Il y a aussi le site de l'Ordre des architectes sur lequel on peut trouver une bibliographie avec des noms de revues, des articles, etc. Il y a le site de l'ARVA, l'Association pour la recherche et... Non, l'Association pour la recherche sur la ville et l'architecture ou quelque chose comme ça. Vous avez aussi archi-eurasia.org et enfin inti.be/écotopie. Alors celui-là, j'ai bien aimé.
Bon, on mettra tous ces... T'en as encore d'autres à rajouter,
non,
Sophie ?
Non, c'est bon.
François, toi, t'avais une...
Ouais, deux références à proposer aussi. Un petit coin pour soulager la nature. D'accord. Un livre très intéressant. Et la pratique du compost et des toilettes sèches de Patrick Baronnet. Un type pas très loin d'ici.
Non, mais ça me fait rire. Oui, Romain aussi ?
Moi, juste un livre, justement, sur l'étalement urbain. La ville étalée en perspective, c'est le résultat d'un colloque sur l'étalement urbain. Voilà.
D'accord, et puis sans oublier le site de notre invité, qui est archiverte.canalblog.com et le site de l'association Empreinte, construction-écologique.org. Bonne lecture !
Ça coule de source.
Coule de source, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette émission. Merci à notre invité Michel Turbin de nous avoir fait part de ses talents d'architecte. Merci à l'association Empreinte de nous avoir permis de participer à une visite de maison écologique. Merci à notre hôte, dont nous ne citerons pas le nom, qui nous a permis de visiter sa maison.
Merci Monsieur X.
Merci à tous ceux qui nous ont éclairés sur ce vaste sujet qu'est l'habitat écologique. De nombreuses personnes ont donné leur temps pour nous permettre d'être calés sur ce sujet. Peut-être que tu as quelques remerciements à faire, Sophie ?
Oui, bon, d'accord.
Peut-être les différents architectes, je pense notamment à Maria Lopez-Diaz, Philippe Madec, Stéphane Chevrier, sociologue.
Voilà, et voilà. Sinon, il y a un nom qui me revient, c'est Catherine Guyot de l'association ARVA, voilà.
D'accord, bah, merci beaucoup. Sinon, merci à vous, merci à toi Sophie de t'être autant démenée. Merci à toi Romain, merci à toi François pour les toilettes sèches.
Merci à toi Hélène.
Merci Hélène.
Il y avait un autre merci François qui était animation. À la technique de l'autre côté. Merci François. Merci à Jean-Loup pour le site internet. Merci à Nathan, à Nicolas et à Yvan pour leur soutien. Côté musique, je vais rappeler le nom des musiques que vous avez entendues dans l'ordre. Ayazine de Chet Nuta sur l'album Ailleurs. Ensuite, on avait Beau Dommage de Vincent Bourgaïx, Wiz avec Karl Januska sur l'album Un ange qui ricane. Et en troisième musique, on avait Vereld Nie de Think of On sur l'album Camping Shabby qu'on a dû couper, mais vous pourrez l'entendre en entier sur cet album. Enfin, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi le cours de nos pensées. La prochaine fois, nous sortirons du cadre établi de l'habitat, la petite maison et son jardin paisible, pour aller voir ce qu'il existe comme habitat alternatif écologique. Pour patienter d'ici là, rendez-vous sur http://sacouledesource.fr. À très bientôt.